Bonjour Tiffaine, de mon côté, je vous propose d'écouter la dernière émission de notre série en 4 épisodes sur la couleur noire, une émission enregistrée, c'est important, avant l'annonce du reconfinement et de la fermeture des musées.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est le plus mystérieux et le plus profond des pigments, celui auquel les peintres n'osent s'adonner qu'avec respect, tant cette couleur est riche de symboles, lesquels sont différents d'ailleurs selon les époques et les latitudes. C'est bien souvent le noir qui, par contraste, révèle les autres couleurs, et Michel Pastoureau est venu lundi dernier refaire pour nous l'histoire de notre sensibilité à cette teinte au cours d'une émission à retrouver notamment sur franceculture.fr. Et puis mardi, c'est par la littérature que nous avons abordé cette matière noire, à travers la manière dont Victor Hugo s'en est emparé comme symbole et aussi de par les dessins, bien souvent noir et blanc, qu'il a réalisés. Nous étions pour ce faire avec Annie Lebrun. Enfin hier, c'est de la peinture de Pierre Soulages dont il a été question, avec Anne-Camille Charlia qui nous a livré ses réflexions sur l'inventeur de l'outre noir. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, dernier moment de cette série, c'est avec vous que nous la faisons. Marie Lavandier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du musée du Louvre-Lens, un musée qui a beaucoup de succès hein, puisqu'il a accueilli plus de 500 000 visiteurs en 2019 et plus de 4 millions depuis son ouverture il y a 7 ans. Un franc succès donc qui dépasse même peut-être les prévisions.
Un franc succès en tout cas qui nous fait très plaisir au-delà des chiffres parce que le musée du Louvre-Lens, il a été créé pour revitaliser, marquer la transformation, la résilience aussi du territoire sur lequel il s'inscrit, qui est un ancien territoire minier marqué par la fermeture des mines et une crise économique profonde dans laquelle ça a plongé la région. Et l'enjeu de ce Louvre-Lens, c'était non seulement de faire venir du monde de l'extérieur, mais aussi profondément de s'enraciner dans ce territoire et de dialoguer avec ses habitants. Et au-delà des chiffres, c'est ce qui est en train de se passer, puisque 70% de ce public nombreux vient de la région.
Est-ce que c'est ce que vous faites pour un peu toutes les expositions? On va le voir notamment avec cette exposition Soleil Noir, dont on va parler. Elle a lieu jusqu'au 25 janvier 2021, elle a été un petit peu décalée à cause de la pandémie de Covid.
Oui, l'exposition devait ouvrir le 25 mars, donc on l'a fermée avant même de l'avoir ouverte. Et surtout, on a dû s'adapter en cours de crise sanitaire, puisque un certain nombre de pays fermaient leurs frontières, les camions d'œuvres ne partaient plus. Donc, il a fallu expérimenter la plasticité de cette exposition, qui heureusement était grande. Et puis ensuite, il a fallu réfléchir à la manière de la faire vivre. On a demandé des prolongations de prêts. Il faut que je dise que d'habitude, avoir des prolongations de prêt, parfois même de 10 jours, ça peut être la croix et la bannière. Et que là, tout le monde, tous les musées auxquels on a demandé, ont dit oui pour une prolongation de près de 6 mois. Donc c'est une exposition qui aura une durée exceptionnelle, elle va durer jusqu'à la fin du mois de janvier.
Donc tous les musées se sont mobilisés, il y a même des œuvres qui sont arrivées, vous ne pensiez même pas qu'elles allaient pouvoir arriver.
Oui, tout à fait. Il y avait un tableau d'Amsterdam, les régents de la Spin House, qui devait faire partie de l'exposition. On nous a annoncé qu'elle ne viendrait pas. Et puis, quelques jours après le début du confinement, on a sonné, il y avait un camion et l'œuvre était dedans.
Alors, Soleil Noir, c'est au pluriel. Il n'y a pas qu'un seul Soleil Noir, il y en a plusieurs.
Non, il n'y a pas qu'un seul Soleil Noir, il y en a plusieurs. Alors, c'est un oxymore et sont des termes qu'on a empruntés à la littérature, qui ont été d'ailleurs mobilisés aussi
bien par le soleil noir de la mélancolie,
Gérard de Nerval et puis Barbara aussi dans la chanson, Victor Hugo. Mais effectivement, ces soleils noirs, oui, absolument. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de noirs aussi, et c'est un petit peu une expérience plurielle d'un noir complexe, d'un noir aussi positif qu'on invite le visiteur.
Alors, c'est quoi un soleil noir qui serait joyeux, un soleil noir positif?
Ben, un soleil noir positif, d'abord un soleil noir positif, très simplement, c'est l'objet même de l'expo, c'est ce qu'en font les peintres, c'est la peinture noire, la peinture du noir, où les peintres vont s'attaquer à cette couleur, alors parfois timidement, vous le disiez, parfois pour valoriser d'autres couleurs, c'est pas trop le sujet de notre exposition, parfois plus frontalement, parce qu'ils ont envie de faire chanter cette couleur, fût-ce parfois pour exprimer des idées noires, effectivement, et... en résulte des joyaux. L'exposition elle-même, c'est une exposition qu'on a voulu fascinante de beauté. Je suis peut-être pas très modeste, mais je parle là des peintures, des peintures que nous exposons. Donc c'est la beauté fascinante de cette couleur. Ce sont ces noirs lumineux. Ce sont ces noirs aussi dans lesquels finalement les peintres vont se confronter. À ce qui serait l'expérience la plus extrême de la peinture, qui est de s'attaquer finalement, parce que le noir, ça absorbe tous les rayons de la lumière. Donc le noir, c'est a priori cette couleur où l'on ne voit pas. Et donc, qu'est-ce que les peintres, qui sont évidemment des artistes visuels, vont aller chercher dans cette couleur, vont faire ressortir oui, on est bien dans quelque chose qui, pour moi, relève du soleil et de la lumière.
Est-ce que vous avez voulu une atmosphère noire, une atmosphère sombre dans l'exposition? La scénographie évidemment est importante quand il s'agit de parler d'une couleur en particulier. Comment l'avez-vous pensé?
Ah, ça c'est une excellente question. D'abord, le Louvre-Lens, il a pour particularité que son architecture merveilleuse, hein, signée par l'agence Sana, est très claire et que les plafonds sont lumineux. C'est-à-dire que l'espace d'exposition du musée du Louvre-Lens, c'est pas une boîte noire. Ça peut pas être une boîte noire. Il bénéficie d'un éclairage zénithal.
C'est une white box.
Ça peut être une white box, on l'exploite assez peu comme ça, ici dans les dernières salles de l'exposition, mais effectivement c'est une white box dans l'idée. Donc à l'intérieur on construit à chaque fois une scénographie, et là pour cette exposition on avait vraiment une équipe 100% Louvre-Lens, que ce soit au niveau du commissariat, avec Luc Pirala et Juliette Guéprat qui s'y sont attelés avec moi, ou au niveau de la scénographie, avec Mathis Boucher, qui est notre architecte scénographe interne. Et il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Alors moi, je vous avoue, assez bêtement peut-être, j'imaginais effectivement une exposition assez sombre, tout du long. Et Mathis nous a proposé très vite, au contraire, une exposition colorée, et une exposition qui finalement mène le visiteur, conformément à ce qu'était notre choix d'ailleurs d'offrir un moment très expérientiel au visiteur, donc mène le visiteur d'une ambiance fondée sur des couleurs... presque noir, couleur très nocturne, jusqu'à des salles entièrement blanches pour la partie plus contemporaine de l'exposition, en passant par des gammes de rouge, de jaune, de bleu sombre aussi, qui vont jalonner le parcours. En revanche, on a choisi une succession de salles aux espaces, je dirais, relativement intimistes, en fait. On a choisi quand même, pour compenser un petit peu ce choix de la couleur et de la lumière, et pour respecter ce qu'on imaginait être des conditions qui privilégient cette espèce de recueillement aussi, hein, souvent associé au sujet que traitent les peintres du noir. On a choisi des espaces et des couleurs qui soient relativement enveloppants, et puis on a osé quelques espaces entièrement noirs, notamment évidemment pour des installations. Je pense à une vidéo sur l'orage de Ange Leccia, je pense à la salle où est présenté un film de Otto de Laurent Grasso, et puis je pense évidemment, mais là c'est pas de la scénographie, à l'œuvre de Claude Lévesque, N2, où le visiteur est plongé dans un environnement entièrement noir, où résonne la voix de la mère de l'artiste qui chante et situe n'existait pas.
Est-ce que le noir, justement, c'est forcément intime? Parce que le noir, c'est aussi la nuit, c'est aussi l'extérieur un peu effrayant, là où on ne voit pas, et donc où il peut se passer tout un tas de choses assez effrayantes. Mais le noir, c'est bien évidemment la petite lumière allumée, la petite fenêtre éclairée, justement, qui tout de suite rend intime, par contraste, l'espace sombre autour.
Alors le noir, on va en parler, il est effectivement le siège de couples de contradictions dans à peu près tous les domaines. Et la question de l'espace que vous posez, évidemment, n'y déroge pas. Avec, oui, un noir, alors bon, la nuit, on est évidemment... une démonstration évidente qui fait l'objet d'ailleurs de la première section de l'exposition, avec ce noir où à la fois on en est plongé, où à la fois on n'arrive pas à éprouver véritablement de profondeur, notamment quand la nuit est réellement noire, ce qui est très rare. C'est pour ça qu'on parle de nuit noire, parce qu'en fait elle est rarement. Donc on n'a plus de profondeur, on n'est plus capable de déterminer la profondeur de l'espace. Et puis en même temps, la nuit et ce noir de la nuit, c'est aussi un moment où effectivement on a une impression d'infinitude, avec notamment donc la vision, la perception et l'interprétation mentale qu'on en fait du ciel étoilé et de ces myriades de points lumineux qui le jalonnent. Effectivement, cet espace du noir, il est agi en fait par les peintres. On le voit là aussi dans toute la première partie de l'exposition, par le seul moyen de convoquer ce noir finalement au départ pour les peintres, c'est beaucoup de l'éclairer. Vous avez raison, de l'allumer, de le jalonner. Donc depuis des flammes de bougies, toute l'histoire du traitement et de la conception de l'ombre, par exemple, et puis des stratagèmes, bien sûr, de mise en œuvre de contrastes très forts entre des parties claires et des parties foncées.
C'est qu'on ne peut pas voir le noir sans lumière, mais là, il faut faire un petit peu attention, parce qu'il y a deux concepts qui ne sont pas les mêmes, c'est la couleur et la lumière. Est-ce qu'on n'a pas tendance à confondre un petit peu les deux ?
Alors oui, ça a été un grand sujet là aussi au moment où on s'est engagé dans cette exposition, parce que le noir pur dans la peinture, il est finalement relativement rare. Par contre, le moment où l'artiste s'attache à représenter le noir, souvent mobilisant d'ailleurs des noirs colorés, en vérité des d'autres couleurs que le noir, ça c'est quelque chose qui est assez fréquent. Donc l'exposition, elle s'attaque effectivement aux deux sujets, hein. À la fois comment enfin, plusieurs sujets. À la fois, comment finalement le peintre va s'attaquer à ce noir réel, très généralement d'ailleurs en lien avec à la fois l'imaginaire du noir, l'histoire littéraire, l'histoire de la mode, etc., etc. D'une part, comment va-t-il faire ? Et c'est pas toujours en mobilisant du noir. Et puis d'autre part,
ça peut être quoi d'autre alors ?
Ça peut être justement des noirs colorés. Très très souvent, ce sont des noirs colorés. On le voit dans la première section consacrée à la nuit. En fait, vous avez à la fois un nocturne de Joseph Vernet et un tableau de Depert, tous les deux de la fin du 18e. Vous avez un concerto spatial et de Lucio Fontana, qui est en réalité gris très foncé. Et puis vous avez une toute petite œuvre, un petit nocturne qui est lui essentiellement composé de noir et de blanc. On est justement cette fois-ci uniquement donc de Allègre, hein, uniquement dans un camailleux de noir ou de gris extrêmement foncé, qui ne sont pas des gris colorés. C'est quelque chose qui est assez rare. Donc effectivement, l'exposition, elle oscille sans arrêt de ses œuvres et de ses stratagèmes pour évoquer l'expérience du noir à des petits allers et retours vers des œuvres qui convoquent le noir qui sort du tube de peinture, bien sûr, mais aussi le noir, par exemple, du cinéma, auquel on a voulu faire une place importante dans l'exposition, ou celui de la gravure.
D'ailleurs, quand vous dites le noir qui sort du tube de peinture, est-ce qu'il y a un Pantone, par exemple ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un vrai noir qui serait la définition même de ce qu'est la couleur noire ? Ou est-ce que finalement, il y a quand même des noirs qui ressemblent à ce que nous, on pourrait considérer comme étant cette couleur ?
Alors, il y a des noirs multiples, et il y a une petite partie dans l'exposition qui correspond un petit peu à la griffe Louvre-Lens, puisqu'on aime bien systématiquement avoir des approches aussi de médiation, où on explique très très pratiquement, très concrètement à notre visiteur, voilà, comment on fabrique les couleurs, comment on fabrique la peinture. Donc c'est une petite salle qui est au démarrage de l'exposition, et qui va expliquer justement cette fabrique du noir, et où l'on va voir effectivement les différents matériaux, le noir de fumée, hein, les noirs de suie, tous les noirs qui sont issus de dispositifs de calcination.
Parce que c'est difficile d'obtenir un très beau noir, et les peintres techniquement ont eu quand même des difficultés à faire fixer aussi cette couleur sur leur toile.
Le noir dans la peinture, dans la nature, pardon, justement, il est assez rare, hein. On montre justement par exemple les certains basaltes ou le noir d'obsidienne, par exemple. C'est rare, un vrai noir pur dans la nature. En peinture, je vous le dis, des matériaux issus de la calcination ont permis de produire des noirs très profonds. Il n'y a pas un seul noir, il y en a plusieurs. On le montre aussi assez précisément dans le domaine, et je pense que Michel Pastoureau en a parlé, dans le domaine de la teinture, dans le domaine de la mode, dans le domaine du tissu, obtenir un beau noir, c'est très difficile. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on va enfin y arriver au XVe siècle, le noir auquel étaient attribuées des dimensions pas forcément très reluisantes, va devenir d'un seul coup en vérité un produit de luxe. Donc il va commencer
comme
à
ça l'est encore un peu aujourd'hui d'ailleurs.
Oui, et dans une alliance de contraire, là encore, d'un côté l'austérité, la sobriété protestante par exemple en l'occurrence dans cette Europe du XVIIe siècle, mais aussi finalement un luxe, certes pas ostentatoire, mais très réel.
Il faut respecter le noir. Rien ne le prostitue. Il ne plaît pas aux yeux et n'éveille aucune sensualité. Il est agent de l'esprit, bien plus que la belle couleur de la palette ou du prisme. Aussi la bonne estampe sera-t-elle goûtée plutôt en pays grave, où la nature, au dehors, peu clémente, contraint l'homme à se confiner chez soi, dans la culture de sa propre pensée, ainsi que dans les régions du Nord, par exemple, et non celles du Midi où le soleil nous extériorise et nous enchante. Elle n'est guère estimée en France, sauf appauvrie par la couleur, résultat autre, qui anéantit l'estampe et l'avoisine à l'image.
La Compagnie des œuvres sur France Culture avec cet extrait du journal du peintre Odilon Redon, lu par Claudia Montanari. Redon qui aimait beaucoup la couleur noire, comme on vient de l'entendre. Il a eu toute une période d'ailleurs centrée sur cette couleur avec ses sympathiques araignées souriantes qui étaient destinées au fusain. Le fusain, c'est d'ailleurs une technique du noir très utilisée justement pour cette couleur-là. Il est question du respect et de la fascination pour cette couleur-là, mais en même temps, Odilon Redon dit que le noir ne plaît pas aux yeux. Et c'est pas du tout ce que vous semblez dire vous-même, Marie Lavandier, puisque vous avez souhaité dans votre exposition insister justement sur l'émotion que procure le noir.
Oui, alors encore une fois, c'est toujours tous ces paradoxes que le noir habite et que du coup on va retrouver dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de la peinture, avec au XVIe siècle, même dans certains manuels de peinture, des prescriptions de ne pas utiliser le noir, qui est une peinture qui n'est pas plaisante. Et puis quand même des grands moments de mode du noir et quelque part même de jouissance picturale du noir, qui serait principalement le XVIIe siècle, qu'on retrouve tout au long de l'exposition, qu'on n'a pas voulu ordonnancer de manière chronologique, et bien entendu le XIXe. Alors moi je parle avec une sensibilité de femme du XXIe siècle et un petit peu du XXe aussi, avec le noir qui a connu évidemment au XXe siècle ses lettres de noblesse à travers la peinture moderne, et notamment l'affirmation très volontaire de Matisse, qui a fondé une grande exposition de la Galerie Mag il y a 70 ans, selon laquelle le noir est une couleur.
Donc et Matisse puis, est un jalon de l'appréciation qu'on a aujourd'hui de la couleur.
De la revendication noire. Du plaisir du noir. Mais pour autant, au 19e...
Mais par contraste, parce que Matisse, c'est le peintre justement de la couleur, et vous n'avez pas voulu montrer le noir comme un contraste d'autre chose.
Ça apparaît de facto dans l'exposition, mais effectivement, on a voulu le montrer pour lui-même. Oui, on a toujours ces peintres qui oscillent entre la revendication de la couleur et celle du noir, et qui sont parfois, c'est très surprenant de voir justement dans cette exposition de la Galerie Mag comment sont Bonnard et Matisse qui vont porter à ce moment-là effectivement le drapeau du noir en quelque sorte.
Une expo qui a d'ailleurs été reconstituée il y a peu de temps, je crois.
Il y a eu une exposition hommage en 2006, donc là c'était plutôt de l'art contemporain, mais effectivement qui retraçait un petit peu cette histoire du noir art au XXe siècle. Pour revenir sur cette remarque d'Odilon Redon, c'est très drôle parce qu'Odilon Redon, il a consacré toute la première moitié de sa carrière au noir et au noir exclusivement, hein, notamment en revisitant les grandes techniques du noir que sont, on le voit dans l'exposition à travers un dessin qui s'appelle Le Corbeau, des mélanges de fusain et de matière noire qui permettent vraiment d'expérimenter des noirs très veloutés, et puis évidemment la lithographie qu'il a vraiment contribué à développer et à promouvoir comme cette technique extraordinaire du noir. Et donc le 19e siècle, il est véritablement, je trouve, un siècle passionnant pour l'histoire du noir parce que fondamentalement, il mobilise et il montre très 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 brillamment toute cette question de l'opposition entre le noir et la couleur qui en vérité n'est pas une opposition. On le voit dans l'exposition en fait, vous allez rencontrer à la fois des peintres qui ont consacré toute leur carrière ou la moitié de leur carrière au noir, Odilon Redon certes, mais qui ensuite a sombré dans c'est voilà. Des couleurs extraordinairement vives.
Et dans l'or aussi.
Exactement, enfin. L'or, la lumière, des couleurs claires, presque pastel, la luminescence un petit peu, le travail d'Odilon Redon. Et puis des artistes, je pense à Benjamin Constant, dès la première salle, cet immense tableau qui est consacré à la sonate au clair de lune, qui est pratiquement entièrement noir, d'où émerge à peine la figure de Beethoven au piano. Constant, c'est un peintre orientaliste qui a consacré toute sa vie à peindre la lumière. Mmh. Donc on a ce moment de rencontre du noir pour l'artiste. Il n'est pas forcément exclusif en vérité. On a beaucoup d'artistes qui ont consacré toute leur vie à la couleur. Bon, Renoir, par exemple, qui l'avait exclu de sa palette, à la fin de sa vie, disait le noir, c'est la plus belle, c'est la seule vraie couleur en quelque sorte.
Donc les peintres qui s'intéressent réellement au noir sont les peintres qui se sont réellement intéressés à toutes les autres couleurs. Vous croyez que c'est lié?
Pas toujours, mais souvent. On voit dans l'exposition. En tout cas, il y a des moments.
Van Gogh, par exemple, il n'y a pas tant que ça de noir chez Van Gogh, si?
Non, Van Gogh constitue peut-être une exception. Il y a du noir hein, chez Van Gogh. Il l'a pas exclu de sa palette, contrairement à Gauguin à certaines périodes de sa vie, qu'il a même revendiqué d'ailleurs quand il a guidé le groupe des Nabis dans l'édiction d'une manière de peindre qui exclut le noir de sa palette. Mais oui, effectivement, on a au XIXe siècle beaucoup de ces artistes qui sont retenus par l'histoire de l'art comme des artistes de la couleur et qui en vérité ont nourri une relation, je pense à Derain par exemple, hein, qui pendant toute une période de sa vie a réalisé des tableaux qui sont quasiment des monochromes noirs. Donc l'artiste de la couleur en général va à un moment ou à un autre, dès le XIXe siècle, s'intéresser parfois dans des tableaux qu'il mobilise presque exclusivement à la peinture noire, à la couleur noire, et ce dans des tableaux qui mobilise finalement parfois une jouissance, un plaisir quasiment haptique, qui ne concerne pas que le visiteur, mais aussi vraiment le peintre.
Haptique, redites-nous ce que ça signifie.
Haptique, ben c'est quelque chose qui s'apparenterait à un plaisir tactile, mais mobilisé par le regard, par les yeux. Et quand on voit, je pense par exemple à Carolus Duran, avec son immense portrait de sa jeune épouse, d'ailleurs, qui s'appelle la femme au gant, la dame au gant, qui est un très beau prêt du musée d'Orsay, avec cette figure noire qui occupe en diagonale une très grande partie du tableau, et cette robe de dentelle et de taffetas qui est dépeinte avec, on sent vraiment la jouissance du peintre de peindre en noir sur noir la rutilance de cette étoffe. Et bien voilà, je dirais qu'à partir du 19e siècle, dans parfois une revisitation aussi du 17e siècle, notamment je pense en particulier à Velázquez, on sent cette pratique du noir comme une couleur, cette espèce de jouissance de la couleur noire, cet approfondissement en fait de toutes les nuances permises par le noir, qui pour moi révèle, bien avant que ce soit formulé effectivement par Matisse, que pour les artistes, les fameux débats sur la physique, Newton, etc., qui prétendaient exclure le noir du champ des couleurs, pour les artistes, le sujet n'est pas là, le noir est bien une couleur, par contre, dont l'usage recèle des contradictions et provoque chez eux une espèce d'épreuve des limites de leur art et des limites de la vision.
Alors l'émotion procurée par le noir, ou plutôt les émotions procurées par le noir, elles sont très nombreuses, elles sont aussi parfois négatives. Vous exposez une œuvre de Damien Hirst qui provoque une émotion très très puissante, et cette émotion c'est plutôt le dégoût, puisqu'il s'agit de milliers de mouches qui ont été collées sur une toile entièrement noire. De loin c'est assez beau, ça, c'est un peu brillant, c'est assez profond, et puis quand on s'approche on se rend compte que c'est un charnier de mouches. C'est une œuvre assez terrible, celle-ci, quand même.
Oui, tout à fait. Who's Afraid of the Dark, c'est une œuvre qui date de 2002 et qu'on a choisi pour introduire justement une partie qui est consacrée au mal noir, hein, en particulier tel que transcrit par les artistes liés au romantisme noir. Cette œuvre, elle est effectivement très intéressante. Vous avez raison. Elle permet aux visiteurs de passer finalement à travers la gamme des émotions souvent que suscite le noir, qui peuvent aller de l'attraction, la fascination, tout ce qui est lié à ces lumières noires justement, hein, qui peuvent être aussi celles de l'éblouissement, celles de la lumière la plus pure, la plus vive. Le soleil, quand on le regarde en face, vous le savez, on finit par n'y voir que du noir. Et puis nous amener jusqu'à un sentiment parfois, voilà, de vide, ou pire, un sentiment de répulsion absolue, un sentiment de peur. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est de montrer aussi, on le fait dans toute l'exposition, comment en fait cette opposition, on la trouve à partir du moment où on commence à écrire sur le noir, à penser le noir, on la trouve par exemple dans la langue latine très vite, à travers cette opposition entre ater, d'où vient atroce, hein, ce noir mat, ce noir souvent associé voilà, à la saleté, à des sentiments négatifs, à la peur, au mal aussi, et puis niger, ce noir brillant, ce noir d'éclat. Et il y a un texte que j'aime beaucoup d'Apulée qui décrit justement ce noir éblouissant, ce noir éclatant, qui est celui de la robe, du manteau plus exactement, de la déesse Isis, qu'on retrouve à plusieurs endroits de l'exposition.
Il y a un autre tableau que je crois vous aimez bien, c'est le tableau de Alexander Harrison, un peintre que vous pouvez peut-être nous présenter un petit peu, Marie Lavandier.
Alors c'est une œuvre de 1893, hein, près du musée d'Orsay. C'est une œuvre qui s'appelle La Solitude. Vous avez un tableau qui est quasiment entièrement noir, où on distingue au milieu de l'œuvre une barque dont on n'arrive pas bien à savoir si elle est immobile ou si elle glisse dans cette espèce d'immensité obscure, et à la tête de laquelle se dresse une figure nue de dos. On ne sait pas si c'est un homme, une femme, un enfant, qui a les bras derrière la tête, et qui fait face à l'infini. C'est une œuvre qui est là encore très atypique en fait de l'œuvre de Alexander Harrison,
qui est mort à Paris dans les années 30.
Tout à fait, qui est venu en France dans les années 1870, et qui est plutôt lié au groupe de Pont-Aven et spécialisé dans des marines plutôt claires. Et là encore, c'est une œuvre un petit peu unique, une œuvre allégorique, ou pour évoquer cette question de la solitude. Évidemment, cette œuvre, je l'aime bien parce qu'en fait, elle nous a accompagné pendant tout le confinement, quand l'exposition pour le coup était dans le noir, l'obscurité, parce qu'on y
vous alliez la voir de temps en temps pour
mais aussi voilà le noir de l'absence de visiteurs. C'est ce qu'on peut faire de pire à une exposition, et à mon avis d'ailleurs souvent à des œuvres aussi. Et oui, on allait la voir et elle nous accompagnait, et j'aime bien la manière dont elle convoque justement ces soleils noirs attachés à cette couleur, c'est-à-dire dont elle est magnifique, elle est très méditative, et finalement de son obscurité profonde, elle fait ce qui a été pour nous une véritable lumière.
On va continuer de parler de tout ça avec vous et de cette exposition, Marie Lavandier, juste après la chronique proposée aujourd'hui par l'historienne de l'art et directrice d'études à l'EHESS, Anne Lafont.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
C'est notre traditionnelle chronique du jeudi qui est également une carte blanche. Bonjour à vous, Anne Lafont.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous venez nous parler aujourd'hui de l'exposition Le Modèle Noir du musée d'Orsay, dont vous avez assuré le co-commissariat, et qui est en quelque sorte un contrepoint à celle de Lens dont on parle aujourd'hui avec Marie Lavandier.
Oui, en effet, Mathieu, je voudrais tenter de comprendre dans quelle mesure ces deux expositions, donc Soleil Noir du Louvre-Lens et Le Modèle Noir, présentées au printemps 2019, donc l'année dernière, au musée d'Orsay, se répondent et correspondent entre elles. La première, nous venons de la visiter grâce à Marie Lavandier. La seconde, quant à elle, montrait un nombre considérable d'œuvres avec des modèles et des personnalités noires tout au long du 19e siècle. Elle rendait ainsi sensible l'émancipation artistique de ces figures noires, autrement dit leur sortie du tableau pour devenir des performeurs. Ainsi, par exemple, du clown chocolat, de la chanteuse et actrice Josephine Baker, ou encore du splendide boxeur Jack Johnson. Sa peau noire, à Jack Johnson, est littéralement bleue dans le tableau de Kees Van Dongen, tableau qui était l'un des clous de l'exposition, justement parce qu'il posait la question de l'écart possible entre la couleur picturale et la couleur de la peau. Or, ce qu'il est intéressant de comprendre à la lumière de ces deux expositions, c'est ce qu'élaborent les trois images au cœur de l'expérience esthétique. Tout d'abord le boxeur noir américain, Jack Johnson lui-même, modèle du peintre. Ensuite l'africanité, telle qu'elle a été stigmatisée, autrement dit le stéréotype de l'homme noir. Et enfin le tableau proprement dit, l'interprétation plastique de cet athlète noir par Van Dongen. L'appréhension d'une œuvre d'art passe par le choc, la rencontre, l'amalgame de ces trois images. C'est une expérience littéralement délicieuse parce qu'elle tient ensemble trois régimes distincts d'émotions qui s'entremêlent de manière imprévisible. Et le passage d'une exposition à l'autre renforce considérablement cette impression que la couleur picturale et le phénotype sont deux domaines à la fois distincts et étroitement reliés.
Donc si on en revient à Jack Johnson vu par Van Dongen, est-ce que vous êtes en train de nous dire que finalement le bleu, ce serait la vraie couleur de peau des Noirs ?
Presque. Je dirais plus exactement que l'imaginaire du bleu croise souvent celui des Africains ou des Afro-descendants en général, à commencer par le blues, l'univers musical des Noirs du sud des États-Unis. D'autre part, le miroitement de certaines peaux noires, les plus foncées, les plus intenses, les plus brillantes, virent au bleu électrique. Si ce n'est littéralement, au moins sur le plan perceptif. La couleur bleue étant une forme de matérialisation plastique des rayons de lumière lorsqu'ils étreignent une surface sombre. Une lueur bleue émane alors de la profondeur du noir. Une magnifique exposition, encore une troisième donc, intitulée opportunément « Blue Black », conçue en 2017 par l'artiste Glenn Ligon au Pulitzer Arts Museum de Saint-Louis, dans le Missouri, avait d'ailleurs exploré ce croisement fécond dans l'art contemporain. Si le rapprochement de l'art et de la science permet de comprendre le phénomène lumineux, dont nous avons déjà parlé avec Marie Lavandier, il est un autre domaine où ce rapprochement est éclairant, c'est celui de la peinture et de la dermatologie, autour de la notion de pigment. En effet, le pigment est à la fois une substance naturelle, à proprement parler un avatar de l'épice, donc du piment, une poudre végétale donc, qui, agglomérée par un liant, de l'eau ou de l'huile, se transforme en une pâte avec laquelle le peintre prépare le petit cône de couleur compact qu'il dépose sur sa palette et qui lui permettra de peindre. Or, le terme de pigment deviendra autour de 1800, avec, pour être brève, l'invention de la médecine dermatologique, le mot savant pour désigner ce qui déclenche la coloration de la peau lorsqu'elle s'éloigne de la prétendue couleur matricielle, le blanc, envisagé comme la couleur originelle de la chair. On parle dès lors de la pigmentation de la peau pour évoquer sa carnation, allant du beige, du cuivré ou encore de l'ambré, au marron et au noir les plus divers et les plus sombres.
Donc il faudrait maintenant comprendre que le noir, ça n'est plus seulement bleu, mais que c'est multiple, c'est ça ?
Oui, absolument. Et d'ailleurs, les pionniers de la négritude, mouvement intellectuel et littéraire parisien du XXe siècle, ne s'y trompèrent pas, puisque le Guyanais Damas publia un magnifique recueil de poèmes intitulé justement « Pigments » en 1937, et Senghor écrivit un texte splendide à la fin des années 50 sur le travail de son ami le peintre Soulages, dont je vous lis quelques lignes. Soulages, disait, écrivait même Senghor, contrairement à l'opinion courante, est un coloriste. Bien sûr, toute son œuvre se place sous le signe du noir qui devient avec lui la couleur majeure. Mais le noir de notre peintre n'en est pas un. J'ai distingué chez lui jusqu'à trois sortes de noirs pour le moins. Et ce noir est vivant, qu'il soit mat ou brillant, épais ou léger comme transparent. En vérité, on trouve sous sa palette toutes les nuances du noir au gris. Par-delà les larges formes noires, brillent des lueurs d'incendie. Si la critique a érigé le White Cube, ou la galerie d'art au mur immaculé, en le lieu par excellence de la consommation de la peinture moderniste, les musées d'aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir, s'engagent désormais dans d'autres voies, notamment celle du coloris ou de la tâche, telle que l'on définit comme en écho l'historien de l'art Jean-Claude Liebenstein et l'écrivain Philippe Roth. Dès lors, l'art renonce à son abstraction des bruits du monde et devient le champ d'expérimentation d'une négritude bleue à l'échelle de la Terre elle-même, qui, comme l'écrivait Paul Éluard en 1929, était, je cite, « bleu comme une orange ». Je crois que les couleurs de l'art, ébranlées par ces deux expositions prises ensemble, révèlent la fluidité infinie de ce que sont nos beaucoup trop chères identités, à l'ère d'une génération, décidément, et de bien des façons, arc-en-ciel.
Eh bien, merci beaucoup Anne Lafont pour ce contrepoint. Puis je rappelle au passage que le catalogue de l'exposition Le Modèle Noir est toujours disponible pour qui souhaiterait se le procurer. À très bientôt. Et nous parlons de l'exposition Soleil Noir du Louvre-Lens. Elle se tient jusqu'au 25 janvier 2021. Nous le faisons avec Marie Lavandier, qui en est co-commissaire dans le même temps, qu'elle est directrice de ce musée. Et pour ouvrir notre seconde partie, je vous propose d'écouter un extrait des Phares, ce poème de Baudelaire, dans lequel il rend hommage au peintre qu'il aime, dans une lecture de Denis Lavant.
Goya. Cauchemar plein de choses inconnues, de fœtus qu'on fait cuire au milieu des sabbats, de vieilles au miroir et d'enfants toutes nues pour tenter les démons ajustant bien leurs bas. De la croix, lac de sang hanté des mauvais anges, ombragé par un bois de sapin toujours vert, où, sous un ciel chagrin, des fanfares étranges passent comme un soupir étouffé de Weber. Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes, ces extases, ces cris, ces pleurs, ces tédéum sont un écho redit parmi le labyrinthe. C'est pour les cœurs mortels un divin opium. C'est un cri répété par mille sentinelles, un ordre renvoyé par mille porte-voix. C'est un phare allumé sur mille citadelles, un appel de chasseurs perdus dans les grands bois. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et viens mourir au bord de votre éternité.
Je vous vois prendre des notes, Marie Lavandier, sur ce poème très célèbre de Baudelaire. Peut-on savoir ce qu'il y a sur votre petite feuille?
Ah oui, j'ai l'esprit d'escalier, donc je me disais qu'effectivement ce poème eût pu fonder justement toute cette partie consacrée au romantisme noir, avec aussi les quelques absents liés au Covid hein, de l'exposition, en particulier collection espagnole.
Mais ils sont dans le catalogue.
Goya, Velázquez, etc. Et puis je me disais que peut-être je n'insistais pas assez sur ces dimensions positives, et encore une fois ces allers-retours. Toute l'exposition est fondée en fait sur vraiment ces couples d'opposition qui font de l'approche littéraire, religieuse aussi, et picturale du noir. Et je pensais notamment à toute la partie donc qui est consacrée au noir et au sacré, qui ouvre effectivement sur le mal noir, ces bestiaires du noir, la chute des anges rebelles aussi, avec toute cette antinomie entre le noir qui habiterait effectivement tous les objets des peurs humaines. C'est facile de peupler l'endroit où l'on ne voit pas de ce qui nous fait le plus peur, et puis ce noir plus positif, ou en tout cas plus paradoxal, notamment qu'on mobilise dans une salle entière qui est consacrée au noir rédempteur, en fait, à ce noir de toute l'iconographie de la passion du Christ, ce noir évidemment qui commence avec la mention de l'éclipse hein, chez deux des évangélistes qui auraient accompagné la mort du Christ, jusqu'au noir des vanités qu'on mobilise sur une simèse complète, et puis ce noir positif avec une salle qui fait le lien entre les deux précédentes, qui est le noir de l'Égypte antique, où le noir finalement c'est avant tout le limon du Nil, d'où finalement vient toute vie, et du coup le noir qui fonde monde. En particulier, j'ai évoqué Isis tout à l'heure et son époux Osiris qu'elle va ressusciter, à qui elle va redonner vie. Ce noir aussi, par exemple, de cette amulette d'embaumeur qui est destinée à, non pas à ouvrir, mais à refermer la plaie de l'embaumement qui est constituée, donc sont deux doigts d'obsidienne, d'un noir absolument pur. Obsidienne qu'on retrouve d'ailleurs dans un cristal à colonne de Murillo qui a été peint sur un miroir aztèque, un miroir magique, un miroir justement d'obsidienne.
Donc le noir semble être toujours une couleur mythique et d'ailleurs vous commencez l'exposition par un mythe et vous terminez l'exposition par un autre mythe, tous les deux extrêmement différents. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Marie Lavandier ?
Alors on commence l'exposition, j'ai voulu qu'effectivement on commence cette exposition, on a vraiment voulu l'imaginer comme un parcours expérientiel pour le visiteur, un parcours où on va partir de finalement ce qui est son expérience personnelle du noir, souvent physiologique, climatique, la nuit, les orages, les eaux noires, pour ensuite l'amener à travers son expérience mais aussi évidemment l'histoire vers le noir, justement le noir du sacré et du religieux, le noir social, et puis petit à petit l'amener vers ce noir justement industriel, puis ce noir plastique, ce noir substance.
Qui ne signifie vraiment que lui-même, c'est-à-dire que, on peut le dire, vous terminez par un Soulages en fait, hein. Il semblerait qu'il n'y a pas de discours dans les tableaux de Soulages, il ne fait que montrer ce pigment, cette couleur, cette matière et la lumière qui du coup se reflète sur cette matière.
En tout cas, effectivement, un des enjeux de l'exposition c'était de pouvoir initier notre public. On est dans un musée d'art ancien, c'est le Louvre Lens, et j'étais très attachée, enfin je suis très attachée d'une manière générale évidemment, à pouvoir offrir à nos visiteurs à la fois de découvrir les richesses de l'art moderne et de l'art contemporain, mais aussi de faire dialoguer ces dernières avec l'art ancien, parce que je trouve que c'est extrêmement riche. Donc c'est un des enjeux sous-jacents de l'exposition, c'est cette histoire de l'art un petit peu différente, un petit peu revisitée. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas voulu un plan chronologique, mais un plan qui, vous avez raison, amène finalement de problématiques qui sont largement, disons, iconographiques, jusqu'à des problématiques qui seraient davantage plastiques et qui aurait trait aux avant-gardes et à l'art pour l'art, avec cette dernière partie d'ailleurs qu'on a appelée le noir pour le noir. Pour autant, rien n'est jamais aussi simple dans la vie et dans nos expositions non plus. Donc dès les premières salles, en fait, vous allez commencer l'exposition par des œuvres d'art contemporain. Dorothy Napangardi qui peint, donc qui est une artiste aborigène et qui va peindre tout en noir, simplement jalonné de petits points blancs, les origines mythique du territoire.
Voilà, c'est le premier mythe.
Voilà, c'est le premier mythe. Laurent Grasso qui peint des pères dieux, qui sculpte des pères dieux dans du marbre noir, entre lesquels on est amené à passer comme dans le scan de ces regards étranges qui font allusion à la croyance antique selon laquelle le monde était noir et finalement la lumière venait de l'œil humain qui allait éclairer ce monde. Et puis effectivement, à l'autre bout, oui, ce mythe absolu de Pierre Soulages.
C'est un mythe de l'art pour l'art, justement.
C'est un mythe de l'art pour l'art. Pour autant, je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'il n'y a pas de discours derrière Pierre Soulages. D'abord, il parle beaucoup de son art et il en parle très bien. Presque mieux, à mon avis, que beaucoup de personnes qui écrivent pourtant magnifiquement sur son travail. Et puis, ce que j'ai aimé dans ces dernières parties qui sont consacrées au noir pour le noir et qui mobilisent, par exemple, la croix de Malevitch, qui mobilise aussi une des Ultimate Paintings de Adrenart. Ce que j'ai aimé montrer, c'est que on n'est pas dans la fin de la peinture. On n'est pas on est vraiment toujours dans cette espèce de jouissance réaffirmée précisément parce que c'est dans la radicalité d'une peinture unique ou d'un contraste le plus fort qui soit entre le noir et le blanc. On est dans l'exploration de la quand même de la joie de peindre, du bonheur de l'art.
Oui, du plaisir de l'aplat. Et c'est même un plaisir sans doute physique. Il faudrait le demander à Pierre Soulages, mais en effet, il n'y a pas besoin probablement de la concentration extrême de celui qui peint des motifs extrêmement précis. Je dis peut-être d'ailleurs une bêtise en disant cela, mais on imagine qu'il y a un plaisir, comme pour Pollock d'ailleurs, à faire comme ça ces très grands tableaux, ces très grands aplats de noir.
Oui, alors Pierre Soulages a beaucoup d'ailleurs discuté sur ce point-là, parce qu'il a souvent été très gêné, notamment des années 70 et 80, par les discours qui apparentaient son travail à l'art gestuel, à la peinture gestuelle américaine, et il a beaucoup insisté sur le fait que son art n'est pas fondamentalement un art, en tout cas où le geste serait vraiment l'essentiel. On vient de l'entendre à travers les citations que Anne Lafont a mobilisées. La peinture de Soulages, c'est une peinture réfléchie, très physique, qui est pas dans le geste, qui est pas dans l'impulsion, hein, qui est dans le marquage, la sculpture presque, hein, surtout évidemment depuis les années 1980 avec ses outres noires, de cette matière noire, de manière à finalement y créer ce qui serait une scène pour toutes les lumières, tous les mouvements, tous les reflets qui les environnent.
Mais donc vous terminez l'exposition avec un tableau de Soulages, Marie Lavandier. Est-ce que ça signifie que on ne peut pas aller plus loin que lui dans l'exploration de cette couleur noire? Est-ce que c'est la fin?
Non, bien sûr que non. Alors déjà, vous savez, une exposition, après, c'est une histoire du réel, où il y a des prêts qu'on aimerait avoir, on les a pas, il y a des choses qu'on aimerait
dire. C'est pas mal d'avoir deux Soulages dans une exposition.
Moi, j'ai trouvé que Soulages, bon, en plus, on vient de fêter ses 100 ans, j'y suis très attachée personnellement aussi. C'était quand même une magnifique manière de terminer l'exposition, même si juste après, il y a un petit film expérimental des années 50 de Len Lai, accompagné de tambours tchadiens, qui clôt, elle, véritablement l'exposition. On a des artistes, alors évidemment le cas le plus connu et avec qui j'avais pour ambition de travailler à l'occasion de cette exposition ou à un autre moment, c'est évidemment Anish Kapoor qui s'est porté acquéreur, vous le savez, d'un pigment, alors qui semble-t-il maintenant est dépassé par un autre, mais qui était le pigment le plus absorbant de toute l'histoire des pigments, qui est le Vanta Black, sur lequel il a fondé.
C'est ça, le noir ultime, alors oui.
Voilà, c'est le noir ultime. Alors c'est le contraire de Soulages, hein, on n'est pas dans le reflet, on n'est pas dans la vie, le mouvement, le regard du visiteur presque activé par le tableau. On est au contraire dans des pièces dont on ne sait plus finalement si elles sont creuses, si elles sont concaves, convexes, si elles viennent vers vous. Si
c'est le trou noir.
Au point même qu'on peut tomber dans les œuvres de Anish Kapoor. C'est arrivé, c'est une anecdote qui a été beaucoup relayée par la presse. Mais là encore, dans l'exposition, on voit finalement apparaître, et c'est ça qui m'intéressait dans les arts anciens, ces moments permis par des noirs très mats qui parfois font irruption au milieu d'une scène parfaitement figurative. Je pense au Bon Samaritain de Ribot, où d'un seul coup, c'est sous l'aisselle du Bon Samaritain, vous avez une tache aux formes étranges d'un noir absolument profond qui se répand sur le sol et dont finalement vous ne savez pas ce que c'est. Vous savez pas si c'est une bosse, un creux. Vous savez pas si c'est le creux de l'aisselle, les poils, des cheveux, de l'ombre. Et donc cette irruption d'un noir qui n'a plus de volume, qui n'a plus de relief, elle existe et elle est à mon avis recherchée et elle fascine depuis bien bien longtemps les artistes. C'est vraiment l'irruption d'un autre espace, le noir.
Étienne débouchait sur le pavé. À droite, il apercevait Montsou qui dévalait et se perdait. En face, il avait les décombres du Voreux, le trou maudit. Puis c'était les fosses à l'horizon. S'il voulait ne pas manquer le train de 8 heures, il devait se hâter car il avait encore 6 kilomètres à faire. Et sous ses pieds, les coups profonds. Les coups obstinés des rivelaines continuaient. Les camarades étaient tous là. Il les entendait le suivre à chaque enjambée. Maintenant, en plein ciel, le soleil d'avril rayonnait dans sa gloire, échauffant la terre qui enfantait. Du flanc nourricier jaillissait la vie. Les bourgeons crevaient en feuilles vertes. Les champs tressaillaient de la poussée des herbes. De toutes parts, des graines se gonflaient, s'allongeaient, gerçaient la plaine, travaillaient d'un besoin de chaleur et de lumière. Un débordement de sève coulait avec des voix chuchotantes. Le bruit des germes s'épandait en un grand baiser. Encore, encore, de plus en plus distinctement, comme s'ils se fussent rapprochés du sol, les camarades tapaient. Aux rayons enflammés de l'astre, par cette matinée de jeunesse, c'était de cette rumeur que la campagne était grosse. Des hommes poussaient, une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur, et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre.
Compagnie des œuvres et Guillaume Gallienne qui lisait la fin de Germinal de Zola, où le noir c'est évidemment le noir des mineurs, le noir des gueules noires. Marie Lavandier, c'est un aspect évidemment qui vous a beaucoup intéressé parce qu'à Lens on est en terre de terril, en terre de charbon.
Oui, alors c'est même ça en vérité qui a provoqué pour moi l'envie de faire cette exposition au Louvre-Lens quand j'y suis arrivée.
C'est donc ça fait longtemps que vous aviez ce projet.
Ça fait longtemps que j'avais ce projet parce que j'y ai travaillé, on citait Jean-Claude Levenshain tout à l'heure, étudiante auprès de lui sur ce sujet du noir dans l'art. J'ai travaillé sur et avec Pierre Soulages, mais tout ça il y a des décennies. Donc c'est un sujet qui m'a accompagnée depuis longtemps. Mais en arrivant à Lens, quand j'ai vu quelque chose qui signe véritablement le paysage de ce territoire minier, qui sont les terrils jumeaux de l'eau sans goëlle, qui sont donc des montagnes de déchets miniers, c'est du schiste noir.
Qu'on voit depuis le musée.
On voit depuis le musée, tout à fait, et qui dessine deux triangles parfaits à l'horizon. Quand j'ai vu cette image qui est complètement fascinante, je me suis dit, mais c'est une évidence que il faut, voilà, ça y est, je vais retrouver le noir ici. Ce noir de charbon, ce noir de l'histoire industrielle, effectivement, et puis ce noir dans l'art qui se rejoignent parfois et parfois pas. On le voit dans l'exposition autour des nouveaux réalistes, de l'Arte Povera, du tas de charbon de Bernard Venet.
Il y a même une faille, je crois, sous le musée qui
alors
est
en fait,
une faille
le musée,
de charbon.
Oui, tout à fait. En fait, le musée, il est installé sur un ancien terril, sur un ancien carreau de mine. C'était une mine qui, voilà, on exploitait le charbon. Et la veine de charbon, elle est quelques centaines de mètres sous nos pieds. Et c'est pas, j'entends toujours l'ancienne veine de charbon.
Elle est toujours là.
Je dis, mais non, elle est toujours là.
Elle n'a pas été exploitée.
Il y a quelque chose d'assez tellurique dans ce lieu, à la fois, et qui rejoint à la fois voilà, l'histoire du monde, de la formation du monde, de la Terre, avec ce carbonifère, cette ère carbonifère dont témoigne ce charbon, et puis cette histoire industrielle dont finalement vient le musée, puisque le musée, encore une fois, a une histoire qui est liée à la fermeture des mines et à cette volonté de renaissance portée par la région, par les collectivités locales, par l'État à ce moment-là, avec le choix du site de Lens, mais aussi et surtout par les habitants. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui m'habite. Donc moi, je suis attachée à faire des expositions qui montrent à quel point le Louvre-Lens, c'est pas quelque chose qui serait venu d'en haut vers le bas pour apporter la bonne parole et des très belles œuvres d'art dont les habitants, d'ailleurs, ont dit à quel point, finalement, même plongés dans la crise économique terrible dans laquelle ils étaient, ça allait les aider à vivre. Le Louvre-Lens, c'est un endroit merveilleux où on peut justement s'inspirer de ce territoire et s'inspirer de quelque chose qui est très important aussi dans l'exposition et dans la couleur noire, de son énergie.
Il y a cette dimension énergie du pétrole, l'énergie du charbon.
L'énergie du pétrole, l'énergie du charbon, l'énergie du sous-sol, qui est quelque chose que,
qu'on
retrouve
aussi
dans
ces artistes. Aujourd'hui, il ne faut pas brûler trop de charbon et trop de pétrole, parce que sinon
tout
c'est
à fait.
La catastrophe.
Mais je ne parle pas que de cette énergie-là, je parle d'une énergie aussi plus symbolique, d'une énergie vitale, qui est très souvent présente dans les œuvres au noir, dans les œuvres du noir.
Et qu'on ressent bien dans une des dernières salles de votre exposition, consacrée donc à ce noir industriel. Vous avez évoqué comme ça en passant, mais j'aimerais que vous reveniez un petit peu davantage dessus, ce grand tas de charbon que vous exposez, qui est une œuvre de Venet, et où on comprend, on voit toute la brillance de ce matériau qui en fait est très très beau.
Oui, alors le charbon, évidemment, c'est un matériau totalement fascinant. On a aussi au tout début de l'exposition un fossile du carbonifère et des fougères qui est absolument somptueux. Et en même temps, on a cette œuvre qui montre finalement comment les artistes, pendant la deuxième moitié du XXe siècle, s'intéressent à ces matériaux industriels, comment on a un déplacement en quelque sorte du matériau de l'art vers ces éléments qui, certes, issus du ventre de la terre, sont connotés sur le plan industriel pour en faire finalement autre chose. Encore une fois, des odes à l'énergie, des retrouvailles avec une poésie dans tous ces matériaux industriels. Et puis on a aussi une autre œuvre en charbon dans cette salle, vous l'avez vu, une œuvre de Lee Bae, donc cet artiste sud-coréen qui vit en France depuis quelques décennies et qui, quand il est arrivé, a repéré des sacs de charbon qui lui ont semblé pouvoir lui permettre de travailler avec des matériaux pas chers. Et en fait, c'est paradoxalement, en travaillant avec du charbon comme avec avec du fusain, qu'il a été ramené vers des souvenirs d'enfance et la force, la puissance et l'importance du charbon dans son pays, qui servait notamment d'abord à protéger les maisons avec des murs calcinés, des murs de bois calcinés, mais aussi finalement qui avait un pouvoir profondément protecteur. Cette œuvre est assez fascinante, c'est une espèce de marqueterie de charbon de bois, et là encore on retrouve quelque chose d'étrange dans le noir, qui est à la fois, on voit les veines du bois comme s'il était encore vivant. L'œuvre s'appelle Issue du feu, comme beaucoup de ses œuvres d'ailleurs, et en même temps on a affaire à un matériau calciné qui est définitivement mort.
Et puis il y a des photos aussi de mineurs du Nord, comme par exemple l'enfant et le gazomètre Roubaix, qui est une photographie de Jean-Pierre Charbonnier, hein, ça ne s'invente pas. D'autres photos comme ça qui sont encore plus peut-être liées à l'histoire de la région.
Oui, alors on a montré comment à la fois les artistes et photographes s'emparent de cette matière, de ces images finalement là, des paysages industriels. Donc Charbonnier, oui, les Béchères aussi, hein, à travers notamment un ensemble de photographies de chevalement de mines pour en créer des œuvres particulières et des espèces d'icônes de l'épopée industrielle. Et puis des photographies qui sont des photographies qui ont été souvent commandées par les charbonnages de France, donc par les mines, des photographies réalisées donc pour le coup à l'intérieur des galeries minières, et dont on a composé là aussi un petit peu en écho effectivement au Béchères un polyptyque.
Pour ne plus jamais plus vous parler de la pluie, plus jamais du ciel lourd, jamais des matins gris. Je suis sortie des brumes et je me suis enfuie sous les ciels plus légers, pays de paradis. Oh, que j'aurais voulu vous ramener ce soir, des mers en furie, des musiques barbares, des chants heureux, des rires qui résonnent bizarres, et vous ferez le bruit d'un heureux tintamarre, des coquillages blancs et des cailloux salés qui roulent sous les vagues mille fois ramenés, des rouges éclatants, des soleils éclatés dont la feu brûlerait d'éternels étés. Mais j'ai tout essayé, j'ai fait semblant de croire, et je reviens de loin, et mon soleil est noir. Mais j'ai tout essayé, et vous pouvez me croire, je reviens fatigué, j'ai le désespoir.
On ne pouvait pas se quitter sans avoir entendu quelques notes de Barbara et de son Soleil Noir. Vous l'avez beaucoup écouté en préparant cette exposition, Marie Lavandier.
Oui, je crois que je voulais chanter au moment de la visite de presse.
Vous voulez la rechanter encore ?
Non, pas après Barbara.
Il faut vraiment aller à Lens pour vous entendre chanter Barbara, le Soleil Noir. C'est ce que vous réservez finalement aux personnes qui font le déplacement. Un mot peut-être en terminant sur cette maladie, l'achromatopsie, qui fait qu'on voit la vie en noir et blanc et qu'on perd les couleurs. C'est quelque chose qui vous a inspiré aussi ou qui vous a effrayé, je ne sais pas.
Moi, m'effraie évidemment en tant que directrice de musée et puis historienne d'art, toutes les maladies qui ont trait à la vision. En même temps que je suis habitée par l'idée, on a beaucoup travaillé là-dessus quand on a préparé l'exposition, que au final, personne ne voit probablement exactement la même chose et que toutes ces questions de couleurs sont passées voilà au prisme de phénomènes physiologiques perceptifs qui font que peut-être qu'on ne voit pas la même chose et pourtant on parle
de la même chose.
Probablement de la même chose, voilà. Donc après pour la chromatopsie, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est aussi justement ce choix du noir en fait. C'est-à-dire que je l'ai évoqué tout à l'heure, des artistes qui sont des artistes de la couleur qui d'un seul coup vont faire le choix de produire une œuvre quasiment en noir et blanc ou sans couleur. Le fait que la photographie couleur, alors qu'on a les moyens de la produire extrêmement vite après l'invention de la photographie, va mettre des décennies à finalement prendre et à être mobilisée par des artistes.
Aussi.
Exactement. La télévision couleur va mettre aussi des décennies à être mise en place, alors qu'on sait la produire très très vite. Donc au-delà de cette maladie qui fait disparaître la perception de toute autre couleur que du noir, encore qu'à mon avis c'est pas de noir qu'il s'agit, mais
mais simplement des effets de contraste binaire entre le clair et le foncé. Ce qui m'a fasciné, c'est effectivement ce choix du noir et parfois cette volonté, effectivement, de transcrire, de présenter, de travailler, de rêver, finalement, uniquement en noir ou en noir et blanc, quand toutes les couleurs sont pourtant à notre disposition.
Oui, c'est vrai qu'on aurait pu parler aussi du cinéma, parler encore davantage de la photographie, parler de la mode, mais pour tout cela, il faut se rendre au Louvre-Lens. On peut y aller pour voir votre exposition Soleil Noir, Marie Lavandier, jusqu'au 25 janvier 2021. On peut aussi se procurer votre catalogue, tout comme le catalogue du modèle noir qui la complète parfaitement. Exposition qui a eu lieu à Orsay. Anne Lafont nous en parlait, c'était en 2019. C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet et Édouard Rubinstein. Et puis demain, c'est Manu Farine que vous retrouverez à cette même heure. Mais dans un instant, vous avez rendez-vous avec les sciences sur France Culture.